J'ai toujours été frappée de la chose suivante.
Vers la fin des années 80,
dans les oubliettes de Tazmamart,
en soudoyant les gardiens,
ils avaient réussi à faire des petits postes de radio.
Des postes transistors qui ont été bricolés par un capitaine.
Parce que les aviateurs étaient très doués pour ça.
À tel point qu'ils captaient presque toutes les stations importantes du monde entier.
Et un jour,
dans ma petite cellule,
il y en a un qui fait marcher son petit poste collé à son oreille.
Dans le noir.
C'était d'ailleurs Ahmed.
Donc on était là.
Et vraiment, le hasard,
j'ai entendu une voix qui a prononcé Tazmamart.
Fait qu'ils entendent une voix de femme,
c'était pas très clair,
qui parle de...
Parler de Tazmamart.
De Tazmamart. Et cette femme,
j'ai entendu...
On dit son nom,
j'ai entendu...
C'était...
Christine Dor Serfati.
Moi, Christine.
Et je peux vous assurer que j'avais les larmes aux yeux. Une étrangère qui nous défend, alors que nos concitoyens nient catégoriquement l'existence de Tazmamart.
Je suis française, j'ai des enfants, des petits-enfants. J'ai passé une grande partie de ma vie au Maroc depuis 1962. Je m'y suis mariée en prison et je trouverais normal qu'on me donne la nationalité marocaine. Et je m'appelle Christine Dor Serfati. Mon père, c'était quelqu'un qui, dès le début de l'occupation nazie, on est d'une famille protestante, il était universitaire et il s'est élevé publiquement contre le statut des juifs. Donc ça, c'est une première des choses. Puis la deuxième chose qui lui est arrivée, il est rentré dans la résistance, il est devenu clandestin et des gens l'ont hébergé comme clandestin. Donc dans ma petite tête, dans ce temps-là, héberger un clandestin, c'était très bien. C'était ce qu'il fallait faire, c'était la morale. Quand des amis sont venus me dire à Casablanca, est-ce que tu voudrais cacher un clandestin ? C'était sans hésitation, je ne pouvais pas dire non. Et donc j'ai hébergé un monsieur qui était recherché par une police qui torturait et pouvait tuer. Et point. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Cette histoire de mariage, c'était vraiment une drôle d'histoire. Danielle Mitterrand m'a beaucoup aidée. Elle a accepté d'écrire au roi Hassan II pour lui demander si je pouvais me marier avec Abraham en prison. Hassan II, je crois, n'a pas réfléchi assez à la chose. Il a dit oui, en public, donc il ne pouvait plus revenir en arrière. À ce moment-là, je n'avais pas revu Abraham depuis 12 ans. 2 x 6, pour être clair. Et donc, je ne savais plus très bien qui j'épousais en prison. C'est-à-dire que je ne me rappelais plus tellement de son physique, puisque pendant la clandestinité, il était grimé, pas coiffé comme d'habitude, et la barbe autrement, ou les moustaches, je ne sais plus quoi. Et que maintenant, je savais que j'allais le revoir normal. Enfin, détenu, bien sûr, mais normal. J'avais plus d'image, en fait. Et en plus, pendant la clandestinité, on avait quand même peu l'occasion de roucouler et de se raconter des histoires au clair de lune. Hein. Donc, c'était une personne dont je connaissais tout un aspect, le militant clandestin. Et pour savoir qui il était réellement, il fallait que je me marie, puisque je ne pouvais pas rentrer dans la prison si je n'étais pas mariée. C'était vraiment ce qu'on pourrait appeler dans les romans à l'eau de rose le cruel dilemme. Et donc, j'ai décidé de dire oui, parce que en plus de tout, si je m'étais aperçu que j'avais épousé un monsieur qui ne me plaisait pas du tout, je ne pouvais pas me libérer toute seule. Il aurait fallu qu'il me répudie ou je ne sais quelle histoire. Donc j'allais me piéger pour un bon moment. Hein. Et j'étais tellement inquiète de ça, c'est-à-dire je voulais tellement savoir qui je venais d'épouser, que j'ai demandé au directeur de la prison, il était 3h de l'après-midi, je crois, quand l'affaire a été finie, et je lui ai dit, mais la visite, ça dure jusqu'à 6h. Je peux aller à la visite maintenant. Me disant, bon, au moins, je vais rentrer ce soir, en sachant qui est ce monsieur que j'ai épousé exactement. Il m'a dit, ah non, ça suffit pour la journée. Et donc je suis revenue 2 jours après, à la prochaine visite. Et pendant 48 heures, j'ai ruminé mon inquiétude. Et ensuite, on s'est retrouvés dans le parloir. D'abord, j'ai été reçue par tout le groupe des détenus, avec des fleurs, avec un petit discours, enfin, une petite fête. Et ensuite, on s'est parlé beaucoup, Abraham et moi, pendant des heures et des heures. Hein. Pas des heures et des heures le même jour, mais en tout. Et j'ai vite compris que je ne m'étais pas mise dans un piège, que s'il fallait, je pourrais en sortir. Voilà. Mais j'ai pas eu encore envie d'en sortir. On est très bien ensemble. Un autre hasard que je considère comme ma médaille dans cette histoire. Et une médaille qu'on ne pourra pas m'enlever. Un jour, Michèle Cotta, elle était journaliste et j'ai appris qu'elle allait faire une interview du roi Hassan II. J'apprends ça et je lui fais savoir qu'il faut absolument qu'elle parle d'un endroit horrible qui s'appelait Tazmamart. Elle me dit oui, elle va essayer. Et pendant l'émission, elle dit « Mais Majesté, vous avez des problèmes de droits de l'homme dans votre pays, mais en particulier, il y a des nouvelles tout à fait terribles sur les conditions de détention dans un bagne qui s'appelle... » Alors, elle trébuche sur le T, elle ne se rappelle plus du mot « la pauvre », parce qu'elle en avait entendu parler pour la première fois, bien sûr. Mais le roi Hassan II n'a pas eu besoin qu'on précise. Il a répondu cette phrase qui est ma médaille. « Madame, les témoignages valent par les témoins. Le témoin principal dans cette histoire, c'est quelqu'un qui a usé et abusé de notre hospitalité. » La pauvre Michèle Cotta, elle était perdue, elle ne comprenait plus du tout. Et elle pose la question « Mais Majesté, de qui parlez-vous ?»« De Madame Serfati. Je l'ai fait prier de ne plus remettre les pieds ici. » Je suis sûre qu'il ne l'avait pas préparé. Ça, le roi, puisqu'il ne savait pas que Michèle Cotta poserait la question. Il avait l'air très en colère, d'ailleurs. Ça m'avait fait un peu peur. Et il s'est piégé lui-même. Et donc, dans ce piège, la solution, ça a été, 3 mois plus tard, de libérer Abraham, de l'envoyer en exil en France, c'est vrai, mais quand même de le relâcher. Et de relâcher les gens de Tazmamart. Gilles Perrault, grand écrivain, homme courageux, a accepté de prêter sa plume et son talent, puisque ce livre il l'a écrit rigoureusement tout seul, sans que j'envoie un mot, raconte l'histoire de notre ami le roi, mais qu'il a été nourri par les informations que je lui donnais. Et ça, c'est vrai, je ne vais pas dire le contraire. Et n'importe qui aurait été à ma place en aurait fait autant. Vous auriez pu garder, vous, une histoire comme celle de Tazmamart, ne pas la dire à ce monsieur qui voulait bien écrire un livre sur le Maroc, mais c'était la chance de la vie de ces hommes. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que je ne regrette pas. Ce livre-là a ébranlé le mur de Berlin, si je peux dire. Il a tellement secoué les... Je parle des Français, hein. Il a tellement secoué les Français que c'était quand même une pression sur le gouvernement français. Pour dire au gouvernement français, alors, c'est ça la monarchie que vous soutenez? C'est ça la politique de droits de l'homme dont vous vous vantez? Et ça a marché. Et merci à Gilles Perrault. Ce livre, La lettre du Maroc, d'abord c'est une demande de mon éditeur, hein, Stock. Et c'est un livre que j'ai écrit pour les Français. Je ne l'ai pas écrit pour les Marocains. Les Marocains, ils ont leur idée sur ce qui se passe, et bon. Alors, j'ai dit franchement ce que je pensais. C'est un livre assez optimiste, parce que c'était la pleine période d'espoir, mais qui montrait bien quelques critiques. Je sais qu'on m'a dit, Oh, mais la raison pour laquelle ton livre n'est pas mis en circulation en vente au Maroc, c'est parce que tu dis que le Maroc sera démocratique le jour où on pourra crier dans la rue « Vive la République ». Je ne sais pas si c'est ça. La raison qu'on m'a donnée, enfin que j'ai cru savoir, c'est que mon ami Edoui Plenel m'a écrit une préface. Et dans cette préface, Edoui Plenel raconte l'histoire de notre ami le roi, de Gilles Perrault. En fait, je crois que la lettre du Maroc, par sa préface, est une sorte de rebond de notre ami le roi. Ça a rappelé notre ami le roi et le choc que ça a été pour la monarchie. Je crois. Hein. Ceci dit, il ne faut pas mettre la lettre du Maroc comme un cas unique. Le paradoxe de cette période, c'est qu'il y a des tas de livres qui ne rentrent pas. Par exemple, le livre de Stephen Smith qui s'appelle « Oufkir, un destin marocain ». Il n'est toujours pas rentré. Mes livres à moi, il n'y en a aucun qui rentre. Sauf un roman que j'ai écrit, un unique roman, qui s'appelle « La femme d'Ijoukak ». Mais c'est tout. Or, on est très gentil avec moi. On me reçoit bien. Mais ma tête, non. Hein. Ce que je pense, non. Et c'est vrai que le livre de Ahmed Marzouki, « Tazma Mart, cellule 10 », est beaucoup plus ravageur que tout ce que j'ai pu écrire. Moi aussi, j'ai écrit un livre sur Tazma Mart en 93. Bon, il ne rentre pas non plus, bien entendu. Mais celui de Ahmed se vend à 20 000 exemplaires. C'est incroyable. Mais bon, c'est bien, voilà. Ça commence par un bout, ça finira bien. C'est même un commencement. Oui, je suis française. Et le seul intérêt de ce que j'ai fait, c'est justement que je l'ai fait en tant que française. Et pas avec ce repli éternel, soit du mépris colonial, ces gens-là changeront jamais, bon, ou bien de la prudence post-coloniale, ah mais je ne suis pas chez moi, je n'ai pas le droit de parler de ci ou ça. Oui, j'ai le droit, parce que les droits de l'homme c'est universel, parce que un Marocain, une Marocaine souffre comme un Allemand, comme un Canadien, comme n'importe qui, quand il voit son enfant mourir faute de soins ou reproduire la misère sociale qu'il a connue lui-même. Donc les droits de l'homme sont universels et donc ça me regarde. Et puis deuxièmement, je voudrais avoir la nationalité marocaine tout en conservant ma nationalité française. Les Marocains qui sont en France, ils sont marocains et puis beaucoup d'entre eux sont français et je trouve ça très bien. Et bien moi aussi. Je ne veux pas être une déguisée marocaine. Je suis française, je ne renie pas mon identité, mais je voudrais qu'on me donne la nationalité marocaine. Je sais que je ne l'aurai pas, hein, mais je veux le demander.
Christine Zerfati, tu as fait beaucoup plus de sacrifices,
Christine,
que beaucoup plus de Marocains.
Tu es déjà Marocaine de fait.
Par la force des choses.
Et du fait,
vous êtes Marocaine
de ton passé.
Au passé, au présent,
de ce que tu symbolises.
Et au futur du Maroc.
Comme courage.
Je pense que...
Comme noblesse.
Il n'y a pas une autorité ici au Maroc.
Comme sacrifice.
Qui doit vous refuser votre passeport.
Tu n'as pas vraiment...
Qui vous revient de nature.
Vraiment besoin de formaliser ce qui existe déjà.
Et les Marocains lui doivent un hommage.